Et bonsoir Benoît Bouscarel.
Bonsoir Emmanuel Laurentin, bonsoir à toutes et à tous. Nous serons à Minneapolis dès le début de ce journal avec notre envoyé spécial Loïc Loury. Aux États-Unis, les manifestations continuent une semaine après la mort de George Floyd sous le genou d'un policier. À Washington, le couvre-feu n'a pas permis le retour au calme hier soir.
Au-delà des scènes de violence et d'émeutes, certains policiers choisissent de montrer leur solidarité avec le mouvement en mettant justement un genou à terre, précision de Bertrand Galichet.
Dans ce journal également, l'épidémie de Covid-19 qui continue au Brésil et au Mexique, où pourtant les mesures de protection s'assouplissent, vous l'entendrez. Et puis en France, la préparation du deuxième tour des municipales, les tractations vont bon train à la veille de la date limite pour les fusions de listes. On voit ça avec Pierre Neveu dans ce journal. Au lendemain d'une sixième nuit de manifestation aux États-Unis, parfois émaillée de violence, le mouvement de protestation suite à la mort de George Floyd il y a une semaine tout juste ne semble pas devoir faiblir. Hier soir, les images de la Maison-Blanche à Washington sous les fumées des incendies de voitures ont fait le tour du monde. Depuis, les états de service de Derek Chauvin, le policier responsable de la mort de George Floyd qu'il venait d'interpeller, ont été publiés, laissant entrevoir un lourd passé pour ce policier avec pas moins de 18 plaintes à son encontre en 19 ans de carrière. Bonsoir Loïc Loury. À Minneapolis, en direct, Loïc Loury, Minneapolis où les faits ont eu lieu et où le mouvement a commencé. Mais la ville du Minnesota n'est plus, semble-t-il, l'épicentre de la contestation. Loïc, la soirée y a été plutôt calme hier soir.
Oui, absolument. La démonstration de force de la police dans la nuit de samedi à dimanche a porté ses fruits. Le couvre-feu hier a été plutôt respecté. Après, vous le savez, 4 nuits de violence, de pillage, de bâtiments incendiés hier. Il fallait regarder vers Washington, notamment, et la Maison-Blanche. Image rare que ce rassemblement dispersé devant la résidence de Donald Trump. Bâtiment plongé dans le noir. Le président a été mis à l'abri dans un bunker souterrain. Des rassemblements parfois tendus ont bien eu lieu dans des dizaines de villes. Las Vegas, Los Angeles, Memphis, à New York, mais le symbole à Washington est très fort, d'autant plus que le président ne daigne pas prendre la parole. Donald Trump se contente de tweeter et pas dans un souci d'apaisement. Il accuse, par exemple, ce matin, le camp de Joe Biden, son adversaire démocrate, de travailler à faire sortir de prison les manifestants les plus violents. Le président promet de stopper la violence collective. Il dénonce surtout la gauche radicale ou les anarchistes. Son adversaire, Benoît, Joe Biden, donc, lui, est apprécié de la communauté noire. On se dit qu'il a une carte à jouer, mais il reste relativement inaudible depuis le début de cette crise, depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, et cela à 5 mois seulement de la présidentielle.
Merci Loïc Loury en direct de Minneapolis pour France Culture. Ces manifestations font réagir les personnalités de différents milieux, notamment dans le sport. Serena Williams, Michael Jordan, Lewis Hamilton, tous peu habitués aux prises de parole de nature, disons, politique, ont réagi chacun à leur manière sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Mais dans la rue, devant certains hôtels de police, les manifestants ont reçu la nuit dernière, sinon le soutien, du moins un signe de solidarité en provenance de certains policiers. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Benoît.
C'est une des images fortes de ces dernières heures en provenance des États-Unis, des policiers qui n'hésitent pas à mettre un genou à terre face aux manifestants. Avec vous Bertrand, on va essayer de comprendre ces images.
Ces images ne témoignent pas d'une lame de fond qui pousserait les policiers à se ranger aux côtés des manifestants. Ce sont plutôt les éléments épars d'un puzzle rassemblé sur les réseaux sociaux et mis en avant par les médias, mais c'est quand même inédit. Ainsi, ce week-end, dans le Michigan, le shérif de la ville de Flint, 125 000 habitants, a attiré l'attention en se joignant à la contestation. Au départ du défilé, il a prononcé quelques mots à destination de la foule. La seule raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour s'assurer que vous ayez une voix. Ne croyez pas une seconde que le policier de Minneapolis représente tous ceux du pays. Nous sommes là pour aider la population, pas pour faire ce genre de choses qui n'ont pas de sens, a proclamé le shérif en ajoutant « Nous voulons être avec vous, j'ai enlevé mon casque, déposé ma matraque, les policiers vous aiment ». Des propos auxquels les manifestants ont répondu en demandant aux forces de l'ordre de marcher avec eux. Dans le Dakota du Nord et à limitrophe de celui du Minnesota où George Floyd a trouvé la mort, des policiers se sont fait prendre ostensiblement en photo tenant une pancarte « Nous sommes une seule race, la race humaine » ou encore « Justice pour George ». D'autres se sont fait photographier un genou à terre imitant le fameux geste de protestation qui dénonce notamment les violences policières racistes. Alors ces voix dissonantes par rapport aux réactions habituelles dans la police ont résonné jusqu'en Californie et en Floride. Elles illustrent un début de conscience, de prise de conscience chez certains certains policiers américains qui ne veulent pas être assimilés à leur collègue qui a tué George Floyd. Ces actions éparses montrent aussi que la composition raciale de plus en plus hétérogène de la police aux États-Unis commence à porter ses fruits.
Merci beaucoup Bertrand Galichet. Parmi les réactions à l'étranger à la situation états-unienne, celle de la Chine, dans un contexte évidemment diplomatique tendu. Pékin dénonce la maladie chronique du racisme aux États-Unis. Et puis celle de l'Iran, qui appelle les États-Unis à, je cite, « arrêter les violences contre leur peuple après la mort de George Floyd. Le monde est aux côtés du peuple américain », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien lors d'une conférence de presse à Téhéran. L'Iran qui, par ailleurs, plus de 6 mois après les violences de novembre dernier, donne un bilan officiel de 230 morts. Des émeutes violentes avaient suivi l'annonce d'une hausse du prix de l'essence. Elles avaient été violemment réprimées alors que les accès à Internet et aux réseaux sociaux avaient été largement coupés. En décembre, un rapport d'un groupe d'experts indépendants avait estimé que le bilan des troubles pourrait être supérieur à 400 morts.
En Amérique du Sud, la propagation du coronavirus continue, au Brésil notamment, où la lutte politique fait rage autour de la gestion de l'épidémie.
D'un côté, les partisans du président Jair Bolsonaro, favorables, comme on le sait, à la reprise de l'activité. De l'autre, l'opposition, le monde scientifique, le Parlement et les autorités judiciaires qui demandent à la population de rester confinée. À Rio, un bras de fer illustre d'ailleurs ces différences de point de vue. En ce week-end de Pentecôte, le maire évangélique de Rio, Marcelo Crivella, avait signé un décret pour la réouverture des lieux de culte. Décret cassé par la décision d'un juge de Rio. Les pasteurs sont divisés, les fidèles déboussolés. Reportage d'Olivier Poujade.
Ils nous retournent le cerveau avec leur décision. Un jour on peut sortir, un autre c'est interdit.
Dans ce quartier pauvre de la zone ouest de Rio, Marcela reconnaît avoir besoin de retrouver le chemin de l'église. Mais les consignes des autorités sont trop confuses et son oncle vient de mourir seul chez lui du coronavirus.
Ici, on n'a accès ni aux médicaments, ni aux soins. Comment peut-on faire confiance à l'homme? Donc c'est Dieu, il n'y a que lui qui fait la différence dans nos vies.
Les églises évangéliques sont indispensables pour ses habitants, mais leurs portes resteront donc closes. Une décision de justice qu'applaudit le pasteur Jefferson Barros.
Dans ces zones périphériques, c'est impossible de respecter les règles de distanciation. Dans l'état de Rio, on a déjà perdu 68 pasteurs parce qu'ils insistaient pour garder les églises ouvertes.
Au sein de la même convention, celle de l'Assemblée de Dieu, Marco Tadeu, lui aussi pasteur, ne partage pas cet avis. On a perdu 40% de nos revenus et cette église doit payer des employés. J'ai un concierge, un secrétariat, l'électricité à payer et on ne reçoit aucune aide publique, de personne. Tout vient des fidèles et financièrement tout s'est effondré. Même chez les pasteurs évangéliques brésiliens, choisir entre sauver l'économie et protéger les fidèles ne semble pas si évident.
Reportage d'Olivier Poujade. Au Mexique non plus, la pandémie de Covid-19 ne reflue pas dans le pays. Le seuil des 10 000 morts est sur le point d'être atteint, chiffre d'ailleurs largement sous-estimé d'après le gouvernement lui-même. Et pourtant, les Mexicains ont commencé à relâcher certaines mesures sanitaires, notamment pour acheter de la bière, alors qu'en raison de l'arrêt de la production, des pénuries provoquent des files d'attente. À Mexico, le reportage d'Emmanuel Stills.
Une infirmière fond en larmes à la vue d'une longue file de personnes qui attendent pour acheter de la bière au mépris des consignes sanitaires. C'est l'une des scènes insolites diffusées par les Mexicains sur les réseaux sociaux depuis que la pénurie de bière a fait perdre à certains le sens des distances. Ailleurs, c'est un groupe de mariachi qui fête en musique l'arrivée d'un camion de bière. Au Mexique, environ 500 000 personnes vivent directement ou indirectement de la production et de la vente de bière qui sont pratiquement à l'arrêt depuis fin mars. Selon Cuauhtémoc Rivera, président de l'Alliance des petits commerçants, ceux-ci ont vu chuter jusqu'à 40% de leurs revenus à cause de cette pénurie qui aurait pu être évitée.
La pénurie a provoqué des ventes spéculatives dans certains commerces qui ont fait payer 4 fois le prix habituel. Non seulement la bière était plus chère, mais en plus, il y avait des longues files. Cela aurait pu être évité si on n'avait pas suspendu la production et si l'approvisionnement avait été assuré dans tout le pays.
Sensible à ces arguments, plusieurs régions du pays ont autorisé la réactivation de la production à partir de ce 1er juin. Le Mexique veut à tout prix éviter de perdre son rang de premier pays exportateur de bière au monde.
À Hong Kong, la menace du coronavirus va empêcher pour la première fois en 30 ans la traditionnelle veillée annuelle en souvenir des victimes de Tiananmen le 4 juin 1989. La police hongkongaise invoque la situation sanitaire pour interdire l'événement. Pour le mouvement pro-démocratie, le coronavirus ne sert que de prétexte à Pékin pour accroître encore un peu plus la pression. Au Congo, l'inquiétude sanitaire porte une nouvelle fois sur Ebola, alors qu'une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique s'est déclarée dans le nord-ouest de la RDC, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministère de la Santé. 4 personnes sont déjà décédées dans un quartier de la ville de Mandaka, à 600 km de Kinshasa. La République démocratique du Congo est également touchée par le coronavirus qui a causé la mort de 72 personnes selon les derniers chiffres officiels. La politique en France avec le deuxième tour des élections municipales qui va concerner plus de 16 millions d'électeurs le 28 juin prochain. Localement, les états-majors politiques se préparent car ils doivent déposer leur nouvelle liste d'ici demain soir 18h. Bonsoir Pierre Neveu.
Bonsoir Benoît.
Les tractations se sont intensifiées ces dernières heures sur les possibles fusions de listes, celles qui le peuvent, au-dessus de 5% des suffrages exprimés au premier tour, ou sur le maintien des listes ayant obtenu plus de 10%. Entre PS et Vert, les négociations ont été fructueuses, notamment à Nantes ou à Rennes, mais dans d'autres villes comme à Strasbourg ou à Bordeaux, les négociations se prolongent, Pierre ?
Alors oui, depuis vendredi à Strasbourg, les choses sont claires en apparence. La candidate d'Europe Écologie Les Verts, Jeanne Barseguian, arrivée en tête le 15 mars dernier, a fait une offre de rassemblement des forces de gauche à l'ancienne édile socialiste Catherine Trottmann. Un appel à la fusion des listes soutenu le week-end dernier par un collectif de personnalités de gauche. À première vue, la situation est simple. Mais en habituée de la vie politique locale et en faiseuse de roi ou de reine, comme on veut, Catherine Trottmann n'entend pas répondre aussi facilement aux sirènes de l'Union. Elle exige une équité parfaite sur les listes et revendique la liberté de discuter avec qui elle veut. Message reçu par le candidat marcheur Alain Fontanel, qui invite ses adversaires à dépasser les logiques d'étiquette, comme un appel du pied au candidat LR Jean-Philippe Véter, mais aussi à la candidate socialiste. À Bordeaux, un accord semble se préciser entre le maire sortant, le républicain Nicolas Florian, et le candidat LREM Thomas Cazenave. L'objectif est de battre les écologistes, car à la mi-mars, le protégé d'Alain Juppé n'avait devancé Pierre Urmic que de 96 voix seulement. Stratégie d'alliance des droites que dénonce Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Accord d'importance qui changerait la donne pour garder la mairie dans ce qui deviendrait le 28 juin une triangulaire où le candidat anticapitaliste Philippe Poutou se maintient crédité de presque 12% des voix. Alors, si ces tractations de dernière minute sont cruciales, eh bien c'est parce que le niveau d'abstention a été particulièrement élevé à la mi-mars dans ces deux grandes capitales régionales, 63% à Bordeaux, 65% à Strasbourg.
Merci Pierre Neveu. Et on apprend sur ce sujet des municipales cet après-midi que Cédric Villani se maintient, il ne conclut pas d'alliance et il maintient donc sa liste dans le 14e arrondissement de Paris. Il était arrivé en 5e position au premier tour des élections municipales à Paris. Un assouplissement supplémentaire des règles de visite en EHPAD est prévu à compter de vendredi, annonce faite tout à l'heure par le ministère de la Santé. Les directeurs d'établissements vont pouvoir mettre en place une reprise des visites des proches à partir du moment où la situation sanitaire le permet, avec notamment la possibilité de faire venir des mineurs à condition, bien sûr, qu'ils soient masqués. Désormais, les Français semblent redouter plus les conséquences économiques et sociales de l'épidémie de Covid-19, qui pourtant n'est pas terminée, que la pandémie en elle-même. C'est du moins le résultat d'une étude de IFOP pour le cabinet conseil stratégique NOCOM, publiée aujourd'hui par le journal Le Parisien. Annabelle Grelier.
Ce n'est pas que la peur du virus a disparu, mais maintenant que les Français, avec le déconfinement, peu à peu retrouvent une certaine normalité dans leur quotidien, c'est la peur de perdre leur emploi qui est devenue plus prégnante. La crise sanitaire serait comme reléguée en arrière-plan face à la crise économique et sociale. Une inversion des peurs, à l'image du décompte des décès qui recule, quand celui des faillites et des plans sociaux lui s'accélère. C'est quasiment toute la société française qui maintenant craint de voir l'économie française s'effondrer. 87% des personnes interrogées le craignent, 67% craignent de voir les prix augmenter et 57% de perdre une partie de leurs revenus quand un Français sur trois craint de perdre son emploi. Une peur d'autant plus forte pour ceux qui sont déjà concernés par les dispositifs de chômage partiel, mais mais toutes les catégories sociales sont concernées, avec un accent plus fort sur les classes populaires ou les chefs d'entreprise et artisans, tous les indépendants travaillant à leur compte. La peur de l'inconnu traverse toutefois toute la société, ce qui expliquerait le redémarrage lent observé actuellement. Déjà éprouvé par la crise des gilets jaunes et les grèves et manifestations contre la réforme des retraites, la France est toujours sous tension dans un climat social instable. À noter que dans le classement des personnes dignes de confiance, les médecins, hospitaliers et pharmaciens restent les premiers cités.
Annabelle Grelier.
Les conséquences économiques de la pandémie suivent. Les syndicats du journal L'Équipe craignent un plan d'économie qu'ils annoncent en préparation, Benoît.
Le quotidien sportif est durement touché par la crise sanitaire et par l'annulation de toutes les compétitions depuis maintenant plusieurs mois. Dans ce contexte, la chute des ventes de L'Équipe était malheureusement inévitable. Et de sources syndicales, une centaine de postes pourraient être supprimés dans la rédaction, sauf si les salariés acceptent de baisser leur salaire ou de rendre des jours de repos. Maxime Tellier.
Les syndicats l'écrivent dans leur communiqué, ils refusent d'entamer des négociations avec le pistolet sur la tempe, car pour eux, il s'agit bien de cela. Francis Magoire est délégué du SNJ, le syndicat national des journalistes, au journal L'Équipe.
Vous acceptez une baisse de salaire et de travailler plus, et on vous garantit un emploi sur 4 ans jusqu'au 31 décembre 2024. Si c'est pas ça, il y aura un PSE, et vu les pertes estimées, ce sera un PSE qui sera de l'ordre d'une centaine de salariés. Donc c'est ça qui nous a fait réagir. Les bases me semblent tellement inacceptables et sans contrepartie. Il y a quasiment la seule contrepartie, c'est de ne pas avoir un PSE de 100 personnes.
Et une centaine de postes supprimés, c'est énorme dans une rédaction qui en compte 350 d'après le SNJ, qui reconnaît une baisse de 50 à 60% du nombre de ventes en kiosque pendant le confinement, avec un effondrement des recettes publicitaires, sachant que L'Équipe retire une grande partie de ses ressources, de la vente au numéro et beaucoup moins des abonnements par Internet. Mais pour les syndicats, la situation financière n'est pas si grave et le groupe Amaury, propriétaire de L'Équipe, a les moyens de ne pas imposer cette négociation à marche forcée. La direction demande, on le rappelle, une réponse aux syndicats avant fin juin. Pour le fleuron de la presse sportive, en tout cas, les difficultés ne sont pas nouvelles. Le quotidien a perdu plus de 200 postes en 10 ans, d'après le SNJ.
Maxime Tellier. Aux États-Unis, c'est l'anniversaire aujourd'hui de CNN, 40 ans d'information continue. Lancé le 1er juin 1980 à Atlanta, le moins qu'on puisse dire, Élise Delève, c'est que CNN a bouleversé la façon de voir la télé et de considérer l'information.
À son lancement, CNN est un ovni télévisuel. De l'info, rien que de l'info. Information en continu, ton sensationnaliste, CNN invente le Breaking News, l'édition spéciale. À ses débuts, la chaîne est moquée. Mais en 90, la guerre du Golfe et ses images en direct de bombes qui tombent dans la nuit font grimper l'audience et CNN est peu à peu imité. La chaîne s'efforce d'être politiquement neutre depuis sa création, mais les attaques répétées de Donald Trump depuis 2016 changent la ligne éditoriale. Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis.
CNN n'est pas franchement truffée de démocrates déchevelés, mais elle est franchement anti-Trump. Donc au fond, d'une certaine manière, Donald Trump a réussi à transmettre dans les médias le clivage qu'il veut absolument creuser dans la société et dans l'électorat américain pour ou contre Donald Trump.
Une si belle longévité, même dans la tempête politique, s'explique aussi par l'innovation. CNN est un modèle sur le numérique. Pour attirer un public plus jeune, la chaîne a notamment investi très gros sur les réseaux sociaux. Elle est aujourd'hui la marque d'information la plus appréciée par les 15-25 ans.
This is CNN.
Voilà, vous écoutez bien France Culture. En Russie, le référendum d'adoption de la réforme constitutionnelle voulue par Vladimir Poutine aura lieu le 1er juillet prochain, prévu initialement en avril mais repoussé en raison de l'épidémie de coronavirus. Ce vote doit principalement permettre au président russe de briguer deux nouveaux mandats à partir de 2024. Avant de refermer ce journal, retour sur la mort de Christo hier à l'âge de 84 ans. Christo dont un des vieux rêves ne se réalisera pas de son vivant, mais se réalisera quand même. En effet, l'emballage de l'Arc de Triomphe à Paris semble être toujours d'actualité. En tout cas, l'équipe du plasticien qui avait déjà emballé le Pont Neuf ou à Berlin le Reichstag se montre optimiste sur la question. Margot Delpierre.
Christo et son épouse Jeanne-Claude ont été clairs là-dessus. Leurs œuvres en cours d'élaboration doivent continuer après leur mort. Désormais disparus tous les deux, leur équipe l'affirme dans un communiqué. Conformément aux souhaits de Christo, il est toujours prévu d'impacter l'Arc de Triomphe l'année prochaine. On devrait donc voir le monument parisien recouvert de 25 000 mètres carrés de tissus recyclables argent bleuté et 7 000 mètres de cordes rouges. Enfin, car c'est une idée qui trottait dans la tête de Christo depuis 1962. D'abord programmée en avril dernier, l'installation a été repoussée au mois de septembre pour laisser les faucons cresserelles tranquilles, des oiseaux qui, pile à cette période, construisent leur nid sur le monument et y nourrissent leurs petits. Ensuite, ce sont les incertitudes liées à la Covid-19 qui ont bouleversé une nouvelle fois le calendrier. Si tout va bien, l'installation devrait être visible du 18 septembre au 3 octobre 2021. Le montage devrait prendre 10 jours, avait expliqué Christo dans une interview au Figaro l'an dernier. Il n'y aura pas de vilaine machine autour de l'Arc de Triomphe, disait-il, ce sera un ballet de dizaines et dizaines d'alpinistes, un spectacle vivant considéré comme une partie de l'œuvre. En attendant, les admirateurs de Christo et Jeanne-Claude pourront visiter l'exposition qui leur sera consacrée à Paris. Elle s'ouvrira dans un mois au Centre Pompidou.
Margot Delpierre, soleil et temps calme au nord, nuages et averses au sud, voilà en quelques mots les prévisions météo pour demain. Température stable de 24 à 29 degrés d'après Météo France.